Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 14 de la saison 4. Il était plus que temps que j'enregistre enfin un épisode qui traite de la prématurité. Parce que le fait même de devoir passer par une conception alternative de nos enfants, de devoir nous imposer des protocoles invasifs et lourds pour nos quotidiens et nos esprits, ne nous épargne pas de la réalité des chiffres qui accompagnent les grossesses. Parfois, le plus dur n'est pas derrière nous, mais il est devant nous. Chaque année, c'est 50 à 60 000 enfants qui naissent à différents stades de prématurité, allant de 25 semaines d'aménorrhée pour les plus extrêmes à 36 semaines d'aménorrhée, fin officielle de la prématurité. 60 000 enfants donc, sur environ 900 000 naissances. Et il faut être clair, ce n'est pas le début de vie que l'on souhaite à nos enfants. Alors passé le choc de l'annonce, souvent, nous avons besoin de personnes ressources, et qui de mieux que des parents d'anciens prémas ? Joy et Manon l'ont bien compris. Ça a été leur premier réflexe, quand, après un parcours compliqué pour concevoir leur petite Talba, la pré-éclampsie et le HELLP syndrome ont précipité sa naissance. C'est le procédé que cette petite coquine a trouvé pour s'inviter discrètement au mariage de ses mamans. Joy a alors pris contact en attendant leur entrée au bloc avec Stéphanie, du compte Demande à tes mères, et Oriane, du compte Daronne en devenir, pour savoir à quoi s'attendre, comprendre comment leur vie allait être impactée. Parce qu'il faut se le dire, le personnel médical sait bien vous expliquer les conséquences directes des symptômes qui poussent à provoquer une naissance. Mais leur discours reste très court-termiste. Pour l'avoir vécu, la prématurité, c'est au jour le jour, et vous ne savez pas une heure avant que vous sortez une heure après. Vous ne savez pas une heure avant que maintenant votre bébé sait se débrouiller tout seul. Mais maintenant vous, vous savez que vous avez plusieurs familles dans notre communauté qui se sont retrouvées confrontées à cette arrivée précipitée dans la vie terrestre, et que comme une mini-communauté dans la communauté, vous pourrez vous en rapprocher au besoin. Je vous laisse découvrir l'histoire de Joy, Manon et Alba, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Joy, bonjour Manon.
Bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu par la positive à mon invitation. Déjà parce que je suis très impatiente de découvrir votre histoire, je l'ai suivie hein, comme beaucoup d'entre nous je pense. Mais je pense que vous avez beaucoup à raconter autour de l'arrivée d'Alba. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter ?
Ouais, pas de souci. Ben, Joy, j'ai 28 ans et je suis l'heureuse maman de Alba. Que Manon, 31 ans, a porté jusqu'au 12 décembre 2021. Et depuis, on forme une belle équipe à trois et on essaye un peu d'avancer.
Donc je précise qu'à l'heure où on enregistre, on est le 15 décembre, ce sera sûrement pas diffusé sur le mois de décembre, mais en tout cas, Alba vient tout juste d'avoir un an. C'est important à noter parce que vu le contexte de la naissance d'Alba, ben c'est chouette que Alba ait un an aujourd'hui. Et avant d'en dévoiler un peu plus, est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre?
Ok. Au niveau de la rencontre, j'étais en région parisienne pour les vacances. Et finalement, une amie de ma marraine chez qui je dormais m'a trouvé un job dans une grande entreprise de train français. pour pas la citer. Et c'était un job pour l'été, pour faire de la saisie informatique. Et je me suis retrouvée dans le même service que Manon.
Ah, c'est marrant ça. Donc tu bossais à la SNCF à l'époque, Manon?
Ouais, je bossais à la SNCF. Pareil, c'était un job, j'étais en intérim là-bas. Et il se trouve que donc l'amie de la marraine de Joyce, c'était une super pote à moi aussi. Et donc elle m'avait dégoté ce job, elle avait besoin de monde. Et quand je suis allée dans le service, au final tous mes collègues qui étaient avec moi sont tous partis en arrêt maladie. Donc elle a recruté Joy. Et du coup, je l'ai formée sur le poste.
Ah, j'ai déjà eu des histoires de formatrice, tiens.
Et de là, voilà.
Et de là, ouais, ça devait être 4 mois de job d'été et ça fait 7 ans.
À la SNCF?
Non.
Plus du tout à la SNCF, du coup, mais non. On a fait notre petit bonhomme de chemin depuis 7 ans, ouais.
Ouais, voilà, on a fait... à un moment donné, moi, les vacances se sont terminées, donc je suis rentrée sur Toulouse et Manon est restée sur Paris. Donc là, on est à l'été 2016 et on a habité ensemble à Toulouse en juillet 2018.
Donc on D'accord, a fait donc deux ans de train.
Ouais.
J'espère que la SNCF a sponsorisé vos allers-retours quand même.
Absolument pas, parce qu'étant donné qu'on était en intérim, on n'avait pas les avantages... Ouais. De nos okay. chers collègues cheminots.
Donc on payait plein pot, nous aussi.
Oh là là, bon. Ok, bon, c'est derrière vous, entre guillemets.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
D'accord, et quand vous vous êtes rencontrées, est-ce que vous aviez déjà chacune de votre côté dans l'idée d'avoir des enfants ou c'est arrivé avec votre rencontre?
Alors, moi, pour le coup... Manon va rigoler de ce que je vais raconter, mais moi personnellement, ma liste de naissance est prête depuis que j'ai environ 18 ans.
Excellent.
Voilà. Donc je me voyais avec des enfants. Je savais pas quand, je savais pas avec qui. Et disons que on a attendu de vivre ensemble. C'était après à peu près un an de vie commune, c'était en août 2019, où on a commencé à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, mais en fait, c'était soit on achetait une maison, soit on faisait un bébé, et on a fait les deux en suivant, mais c'est vrai qu'en 2019, quand on en a parlé, on s'est dit, bon, on va faire un enfant ensemble, et toi, après, je...
Et moi, pareil, ouais, je me suis toujours vue, même plus jeune, entourée plus tard d'enfants. Pareil, je savais pas avec qui, je savais pas comment. Assez drôle, je me voyais pas forcément porter un enfant à l'époque.
D'accord.
Et puis, on va dire, en vieillissant, ça m'a bien tenté. mais je me suis toujours vue, je me voyais pas vivre, en fait, sans avoir un enfant à côté. Après, parce que, ma sœur qui a 10 ans plus que moi, a très jeune eu des enfants, donc j'ai toujours été baignée aussi dans ce, avec ces petits bouts, donc du coup, ouais, ça a été ouais, pour moi toujours une envie, en fait.
Ouais, c'était une évidence, en fait.
Ouais.
Ok, super. Et du coup, Joy, est-ce que tu lui as dit à ce moment-là, Manon, que tu avais ta liste de naissance de prête ou tu lui as pas fait peur tout de suite?
Non, alors je lui ai pas fait peur tout de suite, mais disons que quand on a commencé à parler de la conception, de plein de choses, déjà moi ma passion le samedi après-midi c'est d'aller faire des magasins pour bébés, même sans enfant. J'étais quand même, et je continue d'ailleurs à énormément m'informer sur toutes les nouveautés de périculture, etc. Donc vraiment en fonction des nouveaux produits, enfin, c'est vraiment un domaine que j'adore. Et non, je lui ai pas dit de suite, ça a pas trop tardé non plus, où, où on a parlé un peu de la poussette, du siège auto, etc. etc. Et puis sur certains points, j'ai dit à Manon, alors là, il y aura aucune concession, c'est ouais, ça ou pas.
Que la poussette, j'avais aucune chance de négocier.
Voilà.
J'ai pas essayé, je savais que ça allait être celle-ci et pas une autre.
Voilà, et au final, t'en es très contente, donc tant mieux.
C'était pas ton premier choix, même.
Non, parce qu'entre-temps, ils ont arrêté le produit que je voulais. Mais oui, à peu près.
Et donc, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu as pu vivre ta passion des recherches puériculture en plein jour.
Non, j'irai pas jusqu'à là, mais ouais, tu m'as de suite parlé de ta liste de naissance, tu me l'as partagée.
Oui, après...
magasins.
Oui, après, régulièrement, très régulièrement. Non, mais après, c'est aussi... voilà, on, et puis je... Tout le côté puériculture et même au niveau des enfants, etc., je m'étais quand même assez informée. Disons que là-dessus, concernant, je sais pas, autant l'équipement que le développement du bébé et tout, j'étais plus le cerveau de l'affaire.
J'avais l'impression d'être complètement dépassée. Hein. c'est vrai, je suis alors, d'accord. Ok, mais moi je connaissais, on va dire, la base, changer les couches, etc., mais le reste, pas forcément, quoi.
Et t'as jamais pensé à bosser là-dedans, Joy?
Ben c'est pas forcément ça m'a traversé l'esprit et puis au final la vie a fait que je fais complètement autre chose aujourd'hui, mais c'est voilà, je le garde en côté loisir, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de m'informer là-dessus et puis peut-être un jour qui sait mais non, pour l'instant ce que je fais actuellement me plaît beaucoup, donc ça va.
Bon, et alors, ok, la liste de naissance était prête. Les informations et tous les blogs avaient été épluchés depuis agriculture. Mais la conception, vous y aviez réfléchi ou pas?
Alors, je dirais que j'avais commencé à m'informer un petit peu sur les différentes possibilités. Après, avant même que nous ayons pensé à avoir un enfant, je suivais déjà certains comptes sur Instagram qui avaient déjà des enfants. Ben, je pense à Steph et MC, Demande à tes mères. Je pense à Léa et Capucine. Voilà, je suivais déjà pas mal de comptes qui avaient déjà des enfants par rapport à la conception, etc. Puis ensuite, à ce moment-là, on est quand même en août 2019, donc c'est toujours, la loi n'est toujours pas passée en France. Mmh. Donc, plusieurs solutions s'offrent à nous, de partir à l'étranger ou de faire une conception artisanale en France. La deuxième option a vite été écartée parce que c'est pas du tout ce qui nous correspondait. Nous, on voulait vraiment quelque chose de carré, notamment par rapport à l'anonymat. Voilà, c'était vraiment, on voulait vraiment quelque chose de carré et d'encadré. Puis après, il faut savoir, là, on enregistre de Paris, mais on habite Toulouse. Donc, le choix a été vite fait, hein, entre 10 heures de bagnole pour aller en Belgique ou 3 heures de route pour aller en Espagne. On a pris l'Espagne.
Je comprends pas.
Voilà, on a pris l'Espagne. Après, par rapport à ça, ben, on avait une certaine particularité, c'est que y avait aussi la question du surpoids, il y avait la question de différentes pathologies dont est atteinte Manon. Donc, on a fait, disons, une petite liste de cliniques espagnoles qui nous tentaient, et j'ai envoyé le même mail aux trois cliniques, donc en parlant de notre surpoids, en parlant de la pathologie de Manon,
de diverses questions.
Et sur les trois cliniques qu'on a choisies, il y en a une seule qui a pris la peine de nous répondre. Mmh. Et de nous rencontrer, du coup.
Toulouse, quelques temps après. Donc on a pu caler un rendez-vous et discuter de vive voix avec eux. Donc on
était en
confiance. Enfin, On a pu être rassurés sur pas mal de choses, en fait.
D'accord. Ils vous ont proposé de suite un DPNI ou
Non. Alors, en fait, pas du tout. C'est je crois que je l'ai toujours, le mail. En fait, Manon, elle a des troubles de la coagulation. Elle a des mutations de gènes. Mmh. Et en fait, nous, on voulait un peu savoir ce qu'il en était, parce que du coup, c'est des risques de phlébite assez importants. par rapport à la prise d'hormones. Par exemple, Manon n'a pas le droit de prendre des pilules
contraceptives.
Non, je peux prendre que la microprogestative. Je peux pas avoir d'œstrogène dedans, par exemple.
D'accord, pas d'œstrogène, ok.
Donc forcément, on se pose la question par rapport à la stimulation, etc. Et c'est les seuls qui ont pris la peine de nous répondre en disant non, en fait, vous pouvez faire une stimulation, mais il faudra être sous anticoagulant. Et par rapport à la transmission de la maladie à votre enfant, il suffit de prendre un donneur qui n'a pas du tout cette mutation-là, et oui. Ça, pour limiter.
On n'est pas à l'abri qu'elle va l'aider, mais... En tout cas, ils ont, entre guillemets, limité les risques.
Voilà.
D'accord, ok. Donc, même pas besoin de DPNI, en fait.
Non, absolument D'accord. pas. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé cette histoire-là, mais c'est qu'en réponse à notre mail, ils ont vu qu'on habitait Toulouse et ils nous ont dit que, il me semble que c'était une semaine ou 15 jours après, qu'ils faisaient une rencontre à Toulouse et ils nous ont proposé... de se rencontrer sur Toulouse la semaine d'après. Et ça a été le premier pas, entre guillemets, après les recherches sur Internet, ça a été le premier pas vers cette grande aventure qui est la PMA.
Ça devenait enfin concret.
C'est ça.
Et du coup, je présume que c'est Eugène.
Pas du tout.
Ah bah non.
Pas du tout.
Pourtant, c'est Eugène qui fait des rencontres d'ordinaire.
Ouais, et ils nous ont pas répondu.
Non,
d'accord. Dans, c'était partie des choix, mais ils nous ont pas répondu.
Non.
Okay. C'est Girex.
C'est Girex Gérone, du coup.
Ok. Donc, vous les avez rencontrés 15 jours plus tard. Ça a confirmé. Est-ce que vous... Enfin, votre choix, en fait, qui a été fait par défaut, mais...
Il a été fait par défaut, mais même dans l'échange, dans ce petit rendez-vous qu'on a fait, je ne sais plus si ça a duré très longtemps, mais de suite, on a été... On a été bien reçus, on a répondu à nos questions.
Il y avait une question.
Il y en avait une où elle savait pas trop. Justement, d'ailleurs, par rapport à mes pathologies.
Ouais.
Et elle nous a dit, écoutez, dès que je rentre à Gérone ou à Barcelone, je sais plus où elle était, je pose la question au gynécologue et je reviens vers vous. Ce sera sûrement demain. Et au final, le soir même, on avait tout un mail avec les réponses qu'on attendait, quoi. Donc c'est vrai qu'on a posé hyper sérieux. On a été, de suite... bien accueilli.
Ouais, puis c'était hyper en première rencontre. Tu sentais que la coordinatrice qui nous a reçus avait lu notre mail initial, connaissait un peu parce que on a rempli un petit questionnaire. Disons que on n'avait pas l'impression d'être un numéro au milieu de plein d'autres numéros. Notamment sur cette journée-là où il y avait quand même beaucoup de monde, c'est bonjour Joy, bonjour Manon. Le truc qui fait plaisir quand même quand on se voit pour la première fois, je trouve. Là on est en octobre 2019. C'est ça.
Ok. Et on est presque allé un peu vite, mais parce que tout à l'heure, Manon, tu disais que tu n'avais pas envisagé initialement de porter.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas. C'est vraiment ça que quand j'étais ado, etc., je me voyais plus, par exemple, adoptée que portée. Et je sais pas, en vieillissant, peut-être en approchant de la trentaine, j'ai envie de connaître cette expérience de grossesse, de sentir l'enfant, le voir. Quel déclic ça a été, je sais pas.
Et du coup, ça a été un sujet de discussion entre vous ou ça a été une évidence?
Ouf. Ah non, ça n'a pas été. On pourrait presque parler de négociation. Joy avait très envie de porter, moi du coup j'arrivais sur le tas aussi, et ça a été une grosse discussion de qui porterait Alba, qui sauterait ce pas-là la première, et puis je crois que la privilège de l'âge a fait que je suis la plus vieille, donc ça a été, je crois, un argument pour moi. Et puis dans tous les cas...
Oui, ça s'est vraiment fini en privilège de l'âge où en fait on s'est dit bon déjà on est sûr on voudrait avoir deux enfants donc je déteste cette expression mais pas un enfant chacune mais le porter chacune notre tour ça c'était sûr mais la vraie question c'était qui allait commencer donc comme tu dis de négociation en négociation on a opté pour le privilège de l'âge parce qu'on s'est dit si admettons je porte la première. Donc, Manon avait 29 ans. je porte la première. Ça met environ, si ça peut aussi ne pas marcher du premier coup, etc. Ça peut prendre du temps. Admettons, ça marche au bout de 2 ans. Donc Manon a 32 ans, on va peut-être profiter un peu de notre enfant unique avant d'en faire un deuxième. Donc ça a commencé un peu à avancer dans l'âge et on s'est dit bon ben non, en fait faut voir les choses dans l'autre sens, il faut commencer par Manon qui est plus âgée. Et au final on a bien fait parce que bon, on a commencé les démarches en octobre 2019 et Alba est née en décembre 2021.
Donc, oui, tout à fait.
Plus que bien fait.
Ouais, complètement. Mais c'est vrai que tu vois, je réfléchissais du coup aux pathologies de Manon. Effectivement, ça aurait pu rentrer dans les discussions en fait.
Mais oui. Aussi, en soi, c'était rentré. On avait posé aussi la question, justement à Gérex, de savoir si entre guillemets ça valait le coup de tenter, si ce qu'ils en pensaient aussi. On n'a pas fait que notre choix à nous. On
ouais, bien sûr.
Aussi posé la question et en gros, ils nous avaient dit aussi que bah, ça pouvait prendre plus de temps. De mon point de vue, du fait des pathologies, entre autres. Mmh. Et que du coup, voilà, si vraiment je voulais porter, il fallait peut-être commencer comme ça, quoi. Enfin, par moi, en tout cas. C'est une question qu'on avait posée à différents professionnels, en fait.
Oui, mais c'est surtout qu'en fait, quand tu pars en démarche de PMA, tu as des examens à réaliser, des bilans de fertilité complets. Et à ce moment-là, sur ces bilans de fertilité complets, on s'était pas encore mis d'accord sur qui allait porter ou pas. Donc, mm-hmm. Le bilan de fertilité, on l'a fait toutes les deux en même temps pour d'accord. voir un peu les résultats. Et au niveau des résultats, c'était plus intéressant que ça soit Manon qui commence.
D'accord, ok.
Donc, on a pris aussi notre bon sens, mais également les avis des différents professionnels.
D'accord, ok. Et tout à l'heure, vous parliez des pathologies de Manon, mais vous parliez aussi du surpoids. Qu'est-ce que ça pouvait engager dans la PMA et qu'est-ce qu'ils vous ont proposé?
Et bien, en fait, le surpoids, en gros, dans toutes les cliniques qu'on a pu regarder, on nous disait qu'avec un IMC supérieur à, c'était quoi, je dirais que c'était 36.
Alors, Girex, il n'y avait pas de limite pour... Non, il n'y avait pas de limite pour les inséminations artificielles avec donneur, pour les IAD. En revanche, il y avait une limite pour la FIV, parce que la FIV, il y a énormément d'hormones.
Ouais.
Et avec le surpoids, c'est plus, je ne vais pas dire dangereux, mais disons qu'il y a quand même beaucoup plus de chances que ça ne fonctionne pas.
Mmh. Oui, et puis au-delà de ça, tu as... entre guillemets, toute cette, alors je sais pas si c'est une croyance, je suis pas professionnelle ni quoi que ce soit, mais du surpoids qui rend entre guillemets infertile, quoi. Où il y a plus de difficultés de concevoir. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un côté business dans certaines cliniques qui veulent des taux
de réussite
hyper élevés. Et du coup, ils trient un peu ça, sur ce niveau-là, en tout cas, et peut-être sur d'autres aussi.
Donc, d'accord, ok, ouais. Donc là, c'est vraiment le côté business, effectivement.
Ouais, je pense qu'il y a ce point-là aussi qui est en jeu, notamment en Espagne, en tout cas. Quoique même en France, parce qu'on avait rencontré une professionnelle qui nous avait dit « tant que vous maigrissez pas, je ferai rien avec vous ».
Ah, oh là là, pff, voilà. D'accord.
On en a rencontré qu'une, comme ça, moi, là, en fait. Donc, c'était aussi un facteur...
À prendre en compte, oui, tout à fait. Après, en connaissance de cause, Girex nous avait dit que ça pourrait être plus difficile avec le surpoids, etc. Et alors, est-ce que c'est ça qui a rendu le parcours difficile ou pas ? On le saura jamais. Mais c'est vrai que pas mal de centres PMA, que ça soit en France ou à l'étranger, prennent ce facteur-là en compte. Et notamment, Manon parlait de cette gynéco hyper bienveillante qui aujourd'hui travaille dans... elle est toujours sur Toulouse, elle est dans le deuxième centre PMA de Toulouse. Et j'ai d'autres personnes qui sont allées la voir et qui ont eu exactement la même expérience que nous, où elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit « Tant que t'as pas perdu 20 kilos, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. »
Il y en a qui est aussi forte que nous, qui est en parcours solo et à qui ça s'est très bien passé. Donc, très particulier comme personnage.
Ouais, peut-être plus homophobe que grossophobe d'ailleurs.
Peut-être que ça, ouais.
Ouais, on s'est posé la question justement.
Vraiment ouais. Très particulier comme contact.
C'est notre première gynécologue qu'on allait voir, donc c'est vrai qu'on était un petit peu décontenancé après, en tout cas.
Ouais, ça a été le premier, le tout premier rendez-vous, avant même de rencontrer Jirex, on est allé la voir, elle. Et quand on est sorti du rendez-vous, on s'est regardé, on a dit, non, mais en fait.
On a pleuré.
Ouais.
Et après, on s'est dit, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, j'insiste lourdement dans mes épisodes systématiquement dessus, mais clairement, vous n'êtes lié à personne.
C'est ça.
Donc, changez si vous ne vous sentez pas bien ou pas bien reçu.
On nous l'avait recommandé, cette gynéco, et du coup, on a recontacté la personne qui nous l'avait recommandé en disant, mais en fait, voilà ce qui s'est passé, c'est pas possible.
Bah, c'est clair.
Donc,
c'est clair.
Ça me fait penser à ta petite écho des urgences, peut-être qu'on en parlera dans cette folle aventure de la grossesse, mais on n'est pas en plein confinement, on est en plein pass sanitaire, les visites à l'hôpital toujours interdites, etc., etc. Donc Manon va aux urgences parce qu'elle perd du sang à 22h, je n'ai pas le droit d'être avec elle.
Ouais.
Et Manon sort. T'étais pas très en forme.
Non, bref, je t'écrivais par texto ce qui se passait.
Voilà. Le mec qui a fait l'échographie à Manon, donc je précise qu'il n'est pas gynécologue, c'est un interne urgentiste, j'ai rien contre les internes, mais voilà, qui a dit, donc on avait l'écho de datation le lundi, et on était le vendredi à peu près.
Le samedi,
il dit à Manon... vous pouvez annuler votre écho de datation, il n'y a plus rien à dater.
Oh, putain.
Allez, prends-toi ça et passe un bon week-end.
C'est ça.
Voilà.
Non, mais il y a certains professionnels de santé qui ne devraient pas être professionnels de santé, soyons clairs.
Qui oublient qu'ils parlent à des gens, en fait. Je pense qu'ils n'ont que le côté, scientifique, et ils oublient qu'il y a des personnes en face, quoi.
Bah, c'est ça. C'est ça. Et t'as quand même été faire l'écho de datation, enfin, je présume que oui.
Alors, en fait, on a de suite fait un mail à notre gynécologue, qui, pour le coup, on peut dire, est génial. Et il se trouve qu'il était de garde ce week-end-là. Donc il aurait pu. En fait, il nous a dit, mais je comprends pas pourquoi il m'a pas appelé, sachant que j'étais là.
Sachant qu'ils l'ont appelé pour des patients.
Pour d'autres patientes, mais pas pour moi.
D'autres patientes qui n'étaient pas suivies par lui, alors qu'en fait, à chaque fois qu'on arrivait aux urgences, on disait on est suivi par tel médecin. Et il comprenait pas. Il a répondu à notre mail. Alors, le mail le plus alarmiste du monde.
Ouais, mais on lui a écrit dessus en lui disant voilà ce qui s'est passé. On lui a envoyé le compte-rendu. Des urgences, etc. Et je sais pas, à 3h du mat, il nous envoie un message. Ouais, c'était ça, à 3h
du mat. 4h
du matin. Il nous envoie, parce qu'il était de garde, il nous envoie un message en nous disant rendez-vous.
En majuscule, avec plein de points d'exclamation.
C'est ça, rendez-vous en urgence lundi matin, genre 7h45, avant tous ces rendez-vous, parce que suspicion de grossesse extra-utérine, il faut prendre de suite ça en charge.
Alors, il n'a pas écrit ça comme ça. Le mail, je l'ai encore dans ma tête. C'était lundi 7h30, point d'exclamation. Risque de grossesse extra-utérine, point.
Voilà, je pense que c'était entre deux césariennes, je ne sais pas. C'est vrai qu'on s'est regardé en disant, oula. Bon, après, il a mis les formes quand on est arrivé, mais...
mais en gros, notre gynéco en question, qui est vraiment exceptionnelle, nous a donné son adresse mail perso en nous disant s'il n'y a pas de rendez-vous sur Doctolib, si vous avez la moindre question,
si vous n'allez pas avoir ma secrétaire,
si
vous me faites un mail de suite.
Vous me faites un mail et je vous réponds de suite. Donc, ce qui fait que pendant tout le parcours, entre guillemets, si on avait besoin d'une ordo, d'un conseil, si on n'était pas sur place, il a vraiment été, pendant quasiment tout le confinement, on faisait tout par mail, et à un moment donné, on s'est dit, mais on va peut-être vous payer une consultation, quoi. Enfin...
c'est clair.
Et puis, devine, oh non, c'est bon.
Non, c'est bon. On aura bien le temps de se voir quand ça marchera. Mm. Ah, ok. Donc, dès qu'on faisait un cycle, c'était par mail. Enfin, franchement, juste exceptionnel. Il a d'ailleurs reçu un faire-part d'Alba.
Ouais, puis je le crois de temps en temps aussi. Mais... Non, c'était cool.
Ouais, génial. Et donc, Jirex, du coup, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé avec la connaissance du terrain, en fait ?
Ben, ils nous ont présenté leurs différentes méthodes de conception, donc la FIV, l'IAD... il y avait les FIV double don, mais pour Manon il n'y avait pas besoin. Ils nous ont proposé un peu tout ce qu'ils faisaient. Il y avait l'adoption d'embryons, mais nous on n'avait pas envie.
Ils nous ont laissé le choix, en fait.
C'est ça. Ils nous ont présenté, je vais pas dire les inconvénients, les risques de chaque euh, de chaque méthode. Et ensuite, voilà, ils nous ont bien dit. Enfin, nous, ce qu'on voulait aussi, parce que il y a quand même un certain aspect financier à prendre en compte.
Oui, tout de même.
Voilà. Donc, nous, de nous-mêmes, on a dit bon, ben, on va faire une IAD, on verra. Après, ben, forcément, c'est quand même assez rare que ça marche du premier coup. Donc on avait économisé pour faire plusieurs essais et c'est après la quatrième où on s'est dit bon, au début Manon ne voulait pas entendre parler de la FIV. C'est vrai, au début tu...
Bah, ce qui m'inquiétait c'était que c'est les doses d'hormones n'étaient pas du tout les mêmes, c'est et ça. C'est vrai que c'était un peu bah, eux-mêmes nous l'avaient dit que la FIV, vu les hormones qui donnaient pour entre guillemets produire au maximum, c'était pas hyper alors, je dirais pas compatible mais pas hyper sécure par rapport à mes pathologies ah oui. Pardon. Donc c'est vrai que du coup j'avais un peu peur à ce niveau-là de la FIV, du ressenti que j'allais avoir,
du vécu, ouais.
Ouais, du vécu. Et donc c'est vrai qu'au départ la FIV c'était pas trop, j'étais pas très chaude pour ça, mais bon, en voyant que au bout de 4 IAD ça ne prenait pas, on s'est dit bon.
Mais c'est surtout après la quatrième IAD, qui était au mois d'octobre, on s'est dit, bon, là, maintenant, on va essayer de passer les fêtes. Puis on avait
ouais,
quand
on
même...
on a fait une pause.
On avait quand même pas mal enchaîné. Hein, vraiment, on a été stoppés par le confinement, mais après le confinement et la réouverture des frontières, on a pas mal enchaîné.
On avait peur que ça referme, donc du coup,
on avait peur que les frontières referment, donc à peine c'était négatif, bon, ok, c'est pas grave, on repart.
Allez, on tente le mois prochain.
Ok, bon, voilà, et c'est vrai qu'on a eu un laps de temps et de discussion et de réflexion pour savoir si on faisait la FIV ou pas, et mine de rien, ben, on a eu le négatif, le quatrième négatif fin octobre, et on s'est lancé dans les démarches pour la FIV en février de l'année d'après.
D'accord. Ok. Donc à partir, enfin en octobre, vous menez une réflexion et le temps que ça se.
Alors mais moi, je pense que physiquement, j'avais besoin d'une pause par rapport à mon corps, parce que disons qu'en plus des hormones, il fallait que je fasse mes anticoagulants, donc j'en avais un peu ras-le-bol des piqûres, je faisais un peu une aversion, un peu beaucoup d'ailleurs une aversion de tout ce qui était aiguille. Donc du coup, ouais, je pense que physiquement, j'avais vraiment besoin de cette pause. Je pense que même si on était reparti sur une IAD, dans tous les cas, j'aurais fait une pause quand même. Et puis oui, bah, de réfléchir, de se dire, est-ce que, comme disait Joy, de se dire, est-ce qu'on continue encore sur une IAD, est-ce qu'on tente une FIV. Il y avait quand même l'aspect financier, entre guillemets, qui diminuait aussi. Donc les finances commençaient à nous dire, il va falloir faire quelque chose.
Ouais,
C'est vrai que bah, du coup...
Ouais, puis après, dans un coin de ma tête, c'était, bon, ben, si peut-être on change de personne, ça pourrait fonctionner. Donc, j'avais dit à Manon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente une cinquième IAD sur toi? Est-ce qu'on tente une première IAD sur moi? Ou est-ce qu'on fait la FIV? Et je pense que le côté, j'ai envie de porter un enfant de Manon a vraiment été... décisionnaire entre guillemets, et c'est toi d'un coup, je sais plus, je sais même plus quand c'était, où tu m'as dit bon, c'est bon, on fait une FIV.
C'est ça.
Et alors là, du coup, la FIV, donc c'est un autre process, quoi. Bon, la réflexion, la FIV, tout ça. Comment Jirex réagit? Vous avez poussé un peu? Parce que je sais qu'en général, les cliniques, à partir d'un troisième ou un quatrième échec, ils ont tendance à placer la solution quand même de la FIV.
Alors, il ne nous l'avait pas collé sur le nez, parce que nous, c'est nous qui étions venus vers eux en leur disant, voilà, on pense faire une FIV, qu'est-ce que vous en pensez? Ils nous avaient dit, en gros, qu'on pouvait tester une dernière fois une IAD, que pour eux, il n'y avait pas d'urgence absolue d'aller sur une FIV. Mais bon, après, voilà, c'était une discussion aussi avec eux, ils ont très bien compris que ouais. Nous, l'IAD, voilà.
Ils ont quand même replacé dans la discussion... la question du surpoids, parce que autant pour une IAD, il n'y avait pas de souci, autant pour la FIV, il conseille un IMC entre supérieur, inférieur ou égal à
35, je crois.
35, je crois.
Mais étant donné qu'on était déjà patiente chez eux, que voilà, on n'y allait pas que pour ça, enfin, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ça fait environ un an qu'on passait notre vie chez eux.
Ouais.
Donc, ils nous ont pas refusé. Mais par contre, voilà, ils ont quand même assez réaccentué le truc que ben, les doses étaient plus importantes. Ils nous ont quand même assez informés sur, sur les risques. Mais ils ont pas dit non, c'est hors de question. On vous suivra quand vous aurez perdu 20 kilos, quoi. Non, pas du tout.
Ouais, ouais.
Pas du tout. Ils ont quand même pris aussi le côté, l'aspect humain du truc, en fait.
D'accord. Et alors, quand est-ce que vous commencez le process de FIV?
Ben on fait on fait le premier rendez-vous visio qui pour le coup pour la FIV est obligatoire en février je crois. Et dès ce premier rendez-vous visio en fait, ils proposent de suite la date de ponction, quand est-ce que ça peut nous arranger aussi. Et suite à cette date en fait, ils nous envoient ben, le protocole à faire avant, etc.
Donc la liste d'examens.
La liste d'examens aussi. Ben, nous, en fait, on avait prévu, c'était le 14 avril, la ponction. Mm-hmm. Donc on avait choisi cette date. Alors, je sais
sachant, et parce que je vais me faire opérer du canal carpien, rappelle-toi. Et du coup, je me faisais opérer en mars. Tant que je ne l'avais pas fait ça, je ne me voyais pas faire une FIV, être enceinte, me faire opérer tout ça.
C'est ça.
Donc on faisait, c'est clair. Voilà, je me faisais déjà opérer du canal carpien. Donc. Fin mars.
Puis c'était déjà aussi une anesthésie, donc ils conseillaient quand même d'attendre 15 jours avant. Voilà. Avant de. Ouais, c'est ça. Donc oui, on avait dit bon, ben, 14 avril pour la ponction. Et ensuite pour le transfert, ben, c'était un peu quand on voulait, si on voulait le faire sur le cycle d'après ou encore après. C'était
automatiquement sur le cycle d'après en tout cas.
Voilà, je dirais que pour le coup, ils ne conseillent pas forcément le transfert frais.
D'accord.
Et nous, en même temps, on n'était pas trop pour parce qu'on n'avait pas envie de poser autant de jours, etc. Donc, on s'est dit, bon, ben, on le fera sur le cycle d'après. On rappelle quand même que la clinique, elle est à 3 heures de route. Donc, nous, pour le coup, l'aller-retour sur la journée ou sur 2 jours, ce n'était pas un problème.
Oui.
Voilà comment on en est arrivé là. Et en fait, dans la discussion, je me rends compte que dès le début, ça a été le parcours du combattant, cet enfant, où ben, le jour de les frontières étaient réouvertes, mais il fallait les passes sanitaires et les tests, etc., pour passer les frontières.
Mmh.
On avait beau être vacciné, il fallait avoir le négatif pour rentrer en Espagne.
Mmh.
Et il fallait avoir le négatif pour rentrer en France.
Oui, et puis il fallait aussi, en tout cas sur certains essais qu'on a fait, il fallait avoir
une autorisation de déplacement. Ouais. Département non plus.
Donc il fallait, il fallait que Jérex nous envoie en gros une preuve de pourquoi on allait en Espagne en fait.
Ouais, une convocation.
C'est ça, exactement, une convocation. Donc c'est vrai que du coup, on n'a jamais été contrôlé au final, mais non, on l'a jamais été.
Si.
On a failli.
Si, au péage de...
Ouais, mais il n'a pas regardé les convoques. On lui a juste dit de vie à l'oral. Il n'a pas regardé
les convoques, oui. On s'est fait arrêter en rentrant en France.
D'accord. Et du coup, tu allais dire un truc par rapport... Oui, il y avait donc le négatif au départ, le négatif à en repartant.
C'est ça. Et en fait...
Donc des frais en plus, hein, parce que quand tu fais un test à l'étranger, c'est pour ta pomme.
Alors du coup, on l'avait quand même...
On l'avait anticipé.
C'est-à-dire que on avait la ponction le mercredi. On comptait partir le mardi. Et en fait, les tests étaient valables, je crois, 48 heures.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, on s'est dit, on fait un test le lundi soir pour rentrer en Espagne le mardi soir. Donc, il serait valable.
Jusqu'au mercredi.
Il serait valable jusqu'au mercredi parce que du coup, ben, bloc sous anesthésie générale, il fallait un test négatif également.
Mmh. Mmh.
Et on s'est dit, avant de partir en Espagne le mardi, on va faire...
On en fait un le plus tard possible.
Le plus tard possible.
En France, du coup.
En France,
oui.
Qui sera valable jusqu'au jeudi, date à laquelle on rentrera en France.
Sachant que moi, du coup, j'avais la ponction le mercredi et ils conseillaient de rester au moins la première nuit au cas où complications, ouais, quoi.
C'est de l'ambulatoire, donc il faut avoir une surveillance dans les premières 24 heures et voilà, la nuit qui suit. Il nous avait conseillé de rester en Espagne au cas où qu'il se passe quoi que ce soit.
D'accord. Et alors cette ponction ?
Et alors cette ponction, eh bien, elle s'est, ma foi, plutôt bien passée.
Ouais, ça s'est plutôt bien passé.
Sauf que pendant que Manon était au bloc...
Moi, j'étais pas encore... Parce que j'allais partir. On m'avait fait toutes mes...
Voilà, elle allait partir. Le test qu'on fait le mercredi.
Le mardi.
Le mardi.
Rentrer en France.
Manon reçoit de suite comme quoi elle est négative. Et moi, je reçois rien du tout. Bon, ok. Puis je reçois un mail à 1h du matin à peu près. Mmh. On dormait pas encore, on était assez stressés. Je reçois un mail à 1h du matin. Vous êtes positive au Covid, isolez-vous immédiatement, etc., etc.
Sachant que celui qu'on avait fait la veille était négatif pour Joy aussi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Moi, je me dis, c'est un spam, c'est une arnaque. En fait, j'ai pas reçu le fameux texto, vos résultats sont disponibles, en fait. Je reçois de suite, vous êtes positive, isolez-vous, etc. Bon, ok, très bien. Donc, le lendemain, je dors dos à Manon avec le masque. Ok. Et, le truc complètement, voilà, irrationnel. Et le lendemain matin, avant de partir pour la ponction, j'appelle l'endroit où j'ai fait mon test, qui est quand même... Ah oui, à préciser, je fais mon test chez mon employeur, puisque je suis dans la fonction publique et que je travaille dans un hôpital. Je le fais dans le service de santé au travail de mon employeur. Et donc, j'appelle le lendemain parce que je comprends pas de pas avoir mes résultats. Et j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit « Oui, mais étant donné que vous êtes positive, on l'a signalé à votre supérieur hiérarchique. »
Ouch.
Oui, mais vous pouvez pas me le dire à moi d'abord. Bref, étant donné que c'est dans le contexte santé au travail, ça se passe comme ça. Bon, très bien, etc., etc. Ok, on va à l'hôpital, on fait la ponction et en fait pendant que Manon fait la ponction, je reçois un appel donc du médecin de santé au travail qui me demande si je suis au travail pour que je puisse rentrer chez moi, etc. Et c'est là où je lui réponds, ben non, en fait, je suis pas au travail, je suis en congé, je suis en Espagne. Mais qu'est-ce que vous faites en Espagne? Vous êtes complètement inconsciente. Alors non, je suis pas inconsciente parce que je suis rentrée en Espagne hier soir avec un test négatif. Donc je lui redis, mais comment ça peut virer positif en 24 heures? Enfin, je comprenais rien du tout à ce qui se passait. Ben, résultat, étant donné que mon test négatif était valable que jusqu'au mercredi soir, et bien après la ponction, Manon se rhabille et je lui dis, ben là, faut qu'on rentre en France parce qu'on peut pas, parce que sinon je pourrais pas rentrer en France demain. Donc, on signale à notre hôtel qu'on annule la chambre 24 heures avant. Donc,
on n'est pas remboursé.
Pas remboursé.
Évidemment.
On rentre en France, branle-bas de combat, on refait... moi, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas être positive, il y a forcément une erreur quelque part, etc., etc. Et j'apprends par une amie qui travaille par là qu'il y a eu une grosse panne sur les analyseurs de tests Covid et que sûrement mon test a été contaminé.
Ah.
Et c'était bien le cas.
Et c'était bien le cas. Donc, je repars à mon service de santé au travail, je leur explique le truc, etc., etc. Je me fais un peu recevoir en mode, en gros, vous cherchez pas d'excuses, vous êtes positive et puis faut l'accepter, quoi. Et je dis, non, mais en fait, il y a une erreur, etc. Vous avez eu une panne sur votre mélangeur hier soir, machin, machin. Et là, de suite, la personne que j'ai eue en face de moi s'est tendue en mode, mais comment vous le savez? Bah, en gros, je le sais. Et je dis, retestez-moi aujourd'hui, vous allez voir, il y a forcément une erreur, machin, donc il me reteste, je suis négative. Il me rappelle un peu plus tard avec toutes les excuses, toutes les excuses de la part du service, qu'en effet, il y a eu une erreur, machin, machin. Mais, qu'étant donné que j'ai été
déclarée
positive à la sécurité sociale, ils ne peuvent pas le modifier, donc je ne peux pas reprendre le travail.
Une semaine de vacances.
C'est ça.
Oui, sauf que d'un autre côté, c'est une semaine de vacances où je suis pas, entre guillemets, je suis pas payée, où j'ai le droit de rien faire, où en gros, je suis déclarée positive et je dois rester chez moi, alors que pas du tout, et ils ont reconnu leur erreur. Donc,
ça, t'étais payée par le contribuable pour rester chez toi. C'est bien.
Ça.
Voilà.
Enfin bref, toute cette aventure pour dire que il conseille de rester 48 heures après la ponction.
Ouais.
Sauf que ben nous on n'a pas fait ça.
Mais après non, la ponction s'est bien passée.
J'étais. T'as pas trop aimé quand même. Hein.
Alors c'est l'après. Non, la ponction d'ANEM, j'étais sous anesthésie générale, donc j'en ai pas spécialement de souvenir. Voilà quoi, je me suis endormie, je me suis réveillée, c'était fait. Mm-hmm. Par contre, ouais, j'ai douillé pendant, je sais pas, 3-4 jours après. J'avais des grosses crampes. J'ai la chance de jamais avoir vraiment de douleur de règles. Voilà, c'était atroce. Mm-hmm. C'est vrai que je m'étais dit, si cette fibre-là fonctionne pas, je referai pas de ponction de suite, quoi. J'abandonne l'idée de suite parce que j'ai eu vraiment trop mal, en fait.
Mm-hmm. Et c'est vrai qu'après, on a attendu les résultats au niveau des embryons, etc. Donc, tu avais 24 ovocytes.
Dont, ah oui.
Ouais. Dont 10 matures. Mm-hmm. Donc 10 qu'ils ont fécondé. Au bout du premier jour, sur les 10, il en reste 5.
Ouf, oui.
Deuxième jour, parce que du coup, pendant tout le protocole de l'IAD, etc., on a découvert le syndrome des ovaires polykystiques.
Ouais.
Voilà.
Ça en rajoutait une couche.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, au bout du premier jour, il en reste 5. Au bout du deuxième jour, il en reste 3. Quatrième jour, il en reste 2.
Oui.
Donc, on s'est dit, bon, ben, on va attendre le fameux J5, le stade blastocyste, pour voir un peu ce qu'il en est. Et au stade blastocyste, il y en avait un. Et il y en a un autre qu'ils ont poussé un jour de plus. En gros, ils nous ont dit, il aura le stade J5, mais il lui faudra 6 jours pour l'obtenir, entre guillemets. Et au bout, au bout des 6 jours, on reçoit le résultat du labo, où on a 2 embryons de très bonne qualité, pour le coup, on peut faire le transfert quand on veut.
C'est ça.
Donc, on fait le transfert le mois d'après.
Mmh. On choisit d'en mettre qu'un.
Pareil, toujours l'aspect financier. On en a 2. Si on met les 2 et que ça marche pas, on repart pour une FIV depuis le début.
Et j'avais pas du tout envie. Donc, je disais avant.
Donc le prix de la FIV depuis le début, surtout. Et si ça marche pas, le deuxième transfert est à, je crois, 1 200 €, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est un truc comme ça. C'était un peu environ 1 000 €.
Voilà, c'était un peu plus possible, on va dire, financièrement.
Et puis ça nous faisait un cycle de plus, quoi. On avait 2 mois où on pouvait tenter. Mm-hmm. Sans repartir sur une FIV, enfin sur une ponction et tout. Parce que vraiment, la ponction, moi, j'avais pas du tout envie. Je pense que je t'aurais laissé commencer parce que j'en voulais pas du tout.
Ouais.
J'avais trop mal vécu l'après-ponction.
Ouais.
Donc, du coup, on fait le transfert le 6 mai 2021. Mm. Et là, pour le coup, le 6 mai 2021, on fait l'aller-retour dans la journée.
Ouais.
Il me semble.
Ouais.
Entre guillemets, les frais d'hôtel, les frais d'essence, etc. On en arrive à un point où nos finances sont au plus bas et où on dit, bon, là, c'est pas grave, on va faire l'aller-retour dans la journée.
Mm.
Et ensuite, on attend. Alors là, pour le coup, étant donné que c'est un J5, alors c'est calcul d'apothicaire, je me revois encore en conversation Instagram avec Demande à tes mères, je savais même plus comment faire, s'il fallait calculer le J0 ou le J5, enfin bref, par rapport à la prise de sang. Donc, on a fait la prise de sang le plus tard possible. Mmh. On a dit, bon, en gros, au final, il t'explique que, étant donné que tu as un J5, tu es censé faire la prise de sang à J14. Mais vu qu'il y a déjà 5 jours, tu peux descendre à J10.
D'accord.
Nous, on n'a rien compris. On a fait, bon, allez, on va faire la prise de sang à J14. J14 du J5, comme ça on saura si ça a vraiment marché.
Vous êtes torturés 4 jours de plus.
À peu près, on a été quand même pas mal occupés.
Ouais, on était pas mal occupés. Disons qu'on a eu un peu l'esprit.
L'esprit ailleurs.
Ailleurs.
Ouais.
Alors d'un côté, ça nous évitait de stresser par rapport à cet embryon qui, on espérait, s'accroche bien. Mais Joy a eu un décès de quelqu'un dans sa famille qui nous était très proche. Donc c'est vrai que ça nous a un peu, on est sur autre chose, on était
sur
autre chose, etc.
Ailleurs. Voilà, on était complètement ailleurs. Et la prise de sang, pour savoir si ça avait marché ou pas, c'était le jour où on a pris la route pour aller au funérail de cette personne.
Voilà.
D'accord. Donc,
signification un peu plus.
Ouais.
C'est un contexte un peu particulier. Et puis,
on a appris que c'était bon, quoi.
Et là, le soulagement.
Et là, ouais, le gros soulagement, quoi.
Ouais.
Le gros soulagement, même.
Ouais, plus que gros le soulagement, ouais.
C'est ça. C'est clair.
On attendait les résultats toute la journée parce qu'ils ont eu
un bug informatique
et tout. Donc,
décidément.
Non, mais la poisse, quoi. Où la secrétaire qui nous connaissait bien à force nous disait, mais vous inquiétez pas.
Elle arrêtait pas de nous dire ça.
Ne vous inquiétez pas, roulez tranquille, quoi. On se disait, bon, elle connaît un peu le parcours, on en avait pas mal discuté, donc je me dis, bon, on espère en disant peut-être qu'elle nous envoie un petit message, genre, je peux pas vous dire directement que c'est bon ou pas, mais. Et puis, bon, je pense que c'était un peu ce qu'elle faisait, effectivement. Et puis, au moment où on allait arriver, parce qu'on faisait une pause chez mes parents, au moment où on arrivait chez mes parents, on reçoit le texto, je dis, attends, là, on va se garer, on va pas y aller de suite. Et puis, on a soufflé un coup, et puis on a ouvert le mail, quoi.
Voilà, et c'était positif.
Et c'était positif, on a pleuré un coup, on est reparti.
Voilà.
Bébé Alba était en route.
Bébé Alba était bien là, bien en route.
Ouais. Ouais. Et c'est là qu'on pensait partir pour 9 mois les plus merveilleux de notre vie.
De plénitude.
Et pas du tout. et pas du tout. Ben, je pense que pour pouvoir parler prématurité, enfin pour pouvoir parler de l'arrivée d'Alba, il faut aussi parler du développement de la grossesse surtout. C'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, au bout de 15 jours, Manon a eu des saignements et a fait un premier contrôle. Mm-hmm. Bon, tout allait bien, c'était en gros des règles anniversaires, je crois.
Ouais, c'était ça. Ouais.
Puis de nouveau 15 jours après ça va de nouveau pas où là Manon est hospitalisée une semaine pour hématome rétroplacentaire. Voilà.
D'abord ils ont suspecté une rupture de la poche prématurée de la poche des os.
Ah oui, d'accord, oui, c'est très prématuré là.
Ouais, c'est ça. Et, parce que du coup ils avaient mis les bandelettes pour tester, ça avait viré positif.
Oh putain.
Donc du coup là j'étais surtout hospitalisée par rapport à ça. Parce qu'il y avait une surveillance. On était à 14 semaines. Parce qu'il y avait une surveillance justement à faire. Et au final, en gros, ce que le gynéco nous a expliqué, c'est qu'avec la présence de sang, ça faussait plus ou moins les résultats de la bandelette. Parce qu'après, ça a toujours été négatif. Il y avait un bon niveau de liquide amniotique. Tout allait bien, en fait. Ouais. Et donc, c'est une autre gynéco qui nous faisait l'écho, genre à 2h du matin, parce que j'avais à nouveau des saignements, qui, elle, a vu qu'il y avait
un bel hématome
rétroplacentaire. Qui du coup provoquait ces saignements, quoi, en fait.
D'accord. Et engager la grossesse ou ils étaient assez positifs ?
Ah, ils étaient plutôt positifs.
Oui, franchement, c'était parce que, repos complet.
C'était repos complet, voilà, j'avais pas trop le droit de bouger. Mais on a vu assez rapidement que l'hématome diminuait, quoi, se résorbait. Donc il n'y a pas eu de nouvel épisode, etc. À chaque fois, là, ça se résorbait bien.
C'est ça. Après, c'est au bout de. Il y a eu ça, donc interdiction de prendre la voiture.
C'était le mois d'août, ça. Ouais.
C'était au mois d'août où ils nous ont expliqué, notre gynéco nous a dit la douche, c'est une fois par semaine, voire un peu plus, mais vraiment strict minimum. Vous avez prévu de partir en vacances
Vous oui, oubliez
Non, voilà, vous allez rester chez
et
vous.
Et puis la voiture, ce ne sera que pour aller aux examens médicaux et c'est tout, quoi.
Voilà, la voiture que pour faire le contrôle écho.
C'est ça.
Et sachant que la clinique est à une demi-heure de chez nous. Donc c'était que ça de voiture.
C'est ça.
Bon, ok. Donc là, on est fin août.
Ouais, on est fin août, on avait le rendez-vous le 31 août.
C'est ça.
Pour voir, faire le dernier bilan, entre guillemets, voir si tout était bon.
Il nous dit que tout va bien, qu'il n'y a plus d'hématome, tout est ok.
Là, on apprend qu'Alba est une petite fille.
On apprend qu'Alba est une petite fille, tout à fait. Mm-hmm. Il nous autorise à faire maximum 1 heure de voiture. Donc, on décide de partir en week-end pour les 30 ans de Manon. Une demi-heure de chez nous. Puis au retour de ce week-end, Manon commence à avoir des douleurs au niveau des membres inférieurs.
Au niveau d'une jambe.
Au niveau d'une jambe, du mal à marcher, du mal. On fait un contrôle. C'est une phlébite.
Ah oui, puis en même temps, c'était prévisible.
Il y avait un risque. Après, j'étais tout le long sous anticoagulants, sauf le mois d'août, vu que j'avais cet hématome, mais pour éviter de. D'accentuer l'afflux sanguin.
Ouais.
On m'avait enlevé les anticoagulants. Donc, cette absence d'anticoagulants, plus, entre guillemets, l'immobilisation, bah, ça a fait un petit facteur sympathique pour faire une phlébite. Donc j'ai fait ma petite phlébite début septembre. Voilà, donc elle a été prise en charge de suite, donc il n'y a pas eu de complications ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Donc on a repris tout doucement les anticoagulants pour...
C'est ça.
Pour pallier à tout ça, quoi.
Et donc là, on est fin septembre. On a commencé à acheter des trucs pour Alba à s'équiper, etc. Parce que, voilà. Moi, je lis partout qu'il faut commencer la valise aux alentours de 34-35 semaines. Donc, on a acheté des trucs, mais on se dit, bon, on attend, on lavera plus tard, on fera ça plus tard.
On, attend, on stocke, attend. On stocke et on verra après. Quoi.
Uh-huh. On décide de se marier.
C'est ça.
Début octobre.
Aha. Oui, voilà. Début octobre, on se dit, bah, pour faciliter toutes les démarches d'après, hop, on va se marier. Parce qu'on sonne quand même un petit peu aussi.
Entre-temps, la loi est passée. Donc, ouais. Pour les grossesses déjà entamées à partir du 4 août 2021, on peut faire une reconnaissance conjointe a posteriori. Mm-hmm. Donc, on se dit, bon, ben, on va se marier. La date est prévue le 11 décembre. Donc, on organise un peu tout ça. On a prévu de faire un truc vraiment très simple avec juste nos témoins. On a prévu un petit goûter chez nous, voilà, et un petit resto en suivant avec nos témoins. Mm. Donc, jusque-là, tout va bien.
Et la grossesse se passait très bien.
Et la grossesse enfin. Se passait très bien.
Enfin, tout allait bien.
Les deux derniers mois.
Voilà.
On ne savait pas que c'était les deux derniers mois.
Ah non, vous ne saviez pas.
Et mais puis, on se dit, ça commence à aller mieux.
Ouais, c'est ça. Et puis, bah, du coup, début décembre, on commence un peu aussi tous les achats de Noël, la préparation du petit mariage qu'on avait prévu, tout ça. Et puis, je ne sais pas, aux alentours du 5 décembre.
Ouais.
Dans ces eaux-là.
Puis, par rapport encore à l'organisation pour Alba, tout le monde nous disait prévoyez pas trop de taille naissance parce qu'ils ne le mettent pas souvent. Prévoyez pas trop de ça, etc. Bon, ok. Et nous, on était là, bon, bah, maintenant, on est début décembre, on va se marier tranquille et on s'occupera.
On fera toute la valise de maternité.
Après le mariage, on fera les lessives, on commencera la valise de maternité et puis advienne que pourra.
C'est ça. Et puis on avait rendez-vous chez le notaire le 14.
Et on avait rendez-vous chez le notaire pour la RCAP le 14.
On avait prévu tout ça. Et du coup, ouais, début décembre, je pense, ouais, dans le tour du 4, 5.
Après c'est mon VJF. Donc c'était le 5-6.
Ouais, un truc comme ça. Je commence à avoir des douleurs à l'estomac, mais que je. Toute douce. Donc je me dis, bon, c'est des erreurs d'estomac. Alba, s'il faut, a été assez haute. Donc j'ai dit, peut-être. Je sais pas, ça gêne au niveau de l'estomac, la digestion, etc. Donc j'avais pas mal de. Pas mal de petites douleurs, mais c'était pas insurmontable. Ça allait, quoi. Et puis, ben, les jours passent et ça devient quand même beaucoup plus dérangeant. Jusqu'à une nuit où vraiment j'en pouvais plus, j'étais à un doliprane toutes les 6 heures, c'était la seule chose qui me calmait. Donc je vais faire 2-3 examens, prise de sang pour par rapport à mes anticoagulants, voir si mon INR est correct, si la phlébite est parvenue. Enfin, j'ai un contrôle très régulier pour voir si tout va bien, et là en fait je vois que les résultats sont pas bons du tout.
Ça c'était le vendredi soir.
Ouais, c'était vendredi soir, donc là on voit que les résultats à ce niveau-là en tout cas sont vraiment pas bons. Donc on appelle un angiologue qui nous dit bon, refaites un test demain, s'il faut, ça a baissé mais ça va remonter.
Notre médecin traitant qui nous a dit bon, c'est peut-être une erreur de labo, pour être sûr, refaites une prise de sang demain matin en
urgence. Et on va faire un bilan complet, comme ça au moins
on sera bon. Et un bilan plus que complet.
Sachant qu'elle savait qu'on se mariait du coup le samedi en question.
Oui.
Parce que nous étions donc le 10 décembre à ce moment-là. Donc le 11 décembre, je vais faire ma petite prise de sang pour mon bilan complet. Et puis mon médecin me dit, mais continuez, préparez-vous pour votre mariage, tout va bien se passer. Et il était quoi, 11h30, midi?
Ouais, il était à peu près midi quand on reçoit les résultats de la prise de sang.
Beaucoup de choses sont rouges, quoi.
Qui sont en rouge.
Le samedi 11 décembre à midi, tout est en rouge.
Peut-être pas tout, mais une bonne partie en tout cas.
Et on se marie à 14h.
Et on se marie donc à 14h30. Donc là, mon médecin m'appelle en disant, bon, j'ai eu les résultats. Donc on lui dit, nous aussi, on voit que c'est pas bon. Et on dit, bon, ce que je vais faire, je vous laisse vous préparer pour votre mariage, parce que je sais que c'est cet après-midi. Je me charge d'appeler la maternité, de voir ce qu'on fait, quoi. Donc, on continue un petit peu dans l'angoisse de savoir ce qui va se passer. Et peut-être une demi-heure plus tard, comme ça, je me souviens, on était dans la salle de bain en train de se maquiller.
Ouais.
Je me souviens de ça, avec nos témoins qui étaient en train de finir d'installer la déco de la part pour le goûter. Et un numéro nous appelle et c'était la sage-femme qui nous dit, bon, bah, écoutez, là, au vu de ce que, des résultats qu'il y a eu et au vu de ce que, de tout ce que nous a dit votre médecin, faut que vous veniez de suite à la mater. Et elle nous dit, je sais que vous devez vous marier, mais bon, donc on lui dit, écoutez, est-ce qu'on peut venir ce soir, quoi? Au point de me marier, de pouvoir profiter un peu de nos témoins, de nos potes, quoi. Et on arrive, et là, elle nous dit, non, mais en fait, dans les 2 heures, ça serait bien, pas plus, quoi, parce que là, c'est vraiment inquiétant. On veut faire un contrôle, quoi, voir si au moins le bébé va bien, etc. Bon, moi, je la sentais encore bouger, donc ça allait, tu vois. Mais, donc, on se dit, bon, bah, écoutez, on passe devant le maire à 14h30. Là, il était 14h. C'était juste avant.
Ouais, il était 14h. Ouais,
je crois que je lui dis, bah, écoutez, on passe devant le maire dans la demi-heure et puis on arrive.
Ouais, après, quoi. Ouais.
Donc, le deal est fait et donc on va effectivement se marier.
On était les futurs parents les mieux sapés de la maternité.
Ouais, mais c'est ce que je lui ai dit. D'ailleurs, je lui ai dit, je pense qu'il fallait vite nous reconnaître à la mater parce que on va être hyper bien sapés, quoi.
On était en costume.
On était en costume.
En smoking, voilà, toutes les deux.
Donc, on se marie, effectivement, on explique au maire que bon, faut qu'on y aille, quoi. Donc, on se marie, on fait 3-4 photos histoire d'eux et puis on laisse les clés de notre appart aux copains et nous on y va, quoi.
Donc, on n'a pas participé à notre mariage.
Voilà.
Vous avez signé quand même, vous avez signé.
On a signé quand même, ouais. C'est ça, en fait, on est les mariés qui n'ont pas participé à leur propre mariage. Donc, c'est quand même pas mal. C'est inédit, je pense. Et donc, on arrive effectivement à la mater où la sage-femme nous reconnaît de suite. Elle vient nous voir en disant, je pense que vous êtes Joy et Manon. En effet. Là, on nous met sous monitoring. Alba va très bien. Elle pète le feu.
Manon, elle a toujours des douleurs, mais ça va. Oh. Et ils refont une prise de sang. Et là, ils confirment l'après-éclampsie.
Mm-hmm. C'est ça, le mot est posé.
Voilà, ouais. Le mot est posé, pré-éclampsie. Et là, on nous parle de HELLP syndrome. Donc, donc c'est...
Autant on connaissait l'après-éclampsie, autant...
Voilà, le HELLP syndrome, c'est... les enzymes hépatiques qui sont très hautes, c'est des protéines dans les urines. J'ai pas la définition exacte, mais en gros, Manon avait tous les critères de ça. Et le HELLP syndrome se divise en 3 stades et en fonction des résultats d'examen. Et Manon, elle était en HELLP syndrome stade 3. Donc, c'est le stade maximal de la pré-éclampsie. Il me semble.
Non, oh oui, c'est ça. Et j'étais à ça de passer à une éclampsie toute
et si tu ne fais rien, ça part en éclampsie, en fait.
Oui, donc là, c'est la cata.
Oui, c'est ça.
Donc là, on est...
on était en pré-cata.
Samedi soir, à peu près. Ouais, on est le samedi soir. Et le gynécologue qui est de garde n'est pas celui...
N'est pas le nôtre.
N'est pas le nôtre. Donc il dit, je vais voir avec le gynécologue qui vous suit ce qu'on fait, et je vous tiens au courant. Il l'appelle, il revient, il fait, alors figurez-vous qu'il est de garde demain, donc on va surveiller pour la nuit, on va commencer à balancer des corticoïdes pour
maturer les poumons, et on voit.
Votre gynécologue traitant fera le point demain. Sauf que là, en fait, personne, entre guillemets, nous explique que potentiellement, c'est dans les prochains jours, en fait.
Si, il nous... Ouais, qu'Alba va naître, quoi. Alors, que la solution pour la pré-éclampsie et le HELLP syndrome, c'est la naissance.
Alors, il nous l'a dit, il nous l'a dit, mais il nous a pas dit que ça allait être aussi rapide.
Ouais,
en gros, il nous a dit, préparez-vous dans la semaine.
Dans les jours qui suivent.
Dans les jours qui suivent, mais il n'était pas plus précis que ça.
Il prescrit une nouvelle prise de sang pour le dimanche matin, aux alentours de 5h du matin, je crois. On dort à l'hôpital, bien évidemment.
Avec une prise de corticoïdes aussi.
Avec une prise de corticoïdes.
La nuit de noces.
Elle était merveilleuse.
Ils ont quand même laissé Manon sortir quelques minutes pour faire des photos avec nos copains devant les urgences.
Ouais,
j'avais suivi ce moment-là.
Ouais, c'est ça, parce que du coup, ils se sont dit, bon, au lieu d'aller au resto, je ne sais où, on va aller au plus proche de la clinique. Donc, ils se sont retrouvés aux courtes pailles avec toi, t'as pu y aller.
Ouais,
moi, on m'a dit non, parce que vous risquez de décompenser, de convulser, etc. Donc, j'ai dit non, mais je verrai ça à la clinique.
C'est bien, ouais.
Il m'a ramené mon petit repas. Donc, j'ai eu droit à un super repas, mieux que ce qu'il me présentait à l'hôpital. Et puis, on a dormi là-bas, quoi.
Et on a mangé, la pièce montée dans la chambre.
Ouais, et ma foi, on a plutôt bien dormi. J'étais pas trop. En fait, j'étais pas si stressée que ça.
Ouais, ça allait. En fait, vraiment.
Mais toi, t'étais sous ocytocine et sous hormones de grossesse. Toi.
Sûrement. Non, mais après, je suis pas de nature à être hyper inquiète non plus, mais Mais ouais, non, j'étais plutôt... Enfin, en gros, j'avais compris qu'Alba allait pas tarder à arriver. Mais ouais, je sais pas, j'anticipais pas l'après-naissance. Mm-hmm. Genre, je sais pas, dans ma tête, il y avait pas le « Ok, ça va être prématuré, donc il va y avoir telle ou telle conséquence. »
Ouais, enfin, alors que...
Moi, j'y étais pas du tout.
Alors que moi,
c'était bon, bah, je vais voir ma fille, ok, quoi.
Et vous étiez à combien de semaines, là?
On était à 34.
34 piles.
Et... 34, c'est quand même un bon stade.
Oui, c'est ouais. ça.
C'est ouais. pas idéal, mais c'est un bon stade.
On n'est plus dans la grande prématurité. On en est sorti.
Et donc, le lendemain matin, Manon refait une prise de sang. Et apparemment, cette prise de sang est de nouveau catastrophique. Entre la veille et le matin, ça a rechuté. Notre gynéco arrive.
Blouson sur le dos,
sur l'épaule. En civil. Je pense que clairement, il sortait de sa bagnole, quoi.
Clairement.
Il arrive, il nous dit, bon, voilà, vous savez, le HELLP syndrome, donc il se passe ça. La seule solution pour arrêter l'aggravation des symptômes, c'est la naissance. Moi, de suite, je comprends ce qui va se passer, mais je ne sais pas quand. Donc je lui dis, mais du coup, c'est pour demain, c'est pour dans la semaine, comment ça se passe? Ah non, là, vous prenez une douche et dans une heure, on est en bas. Ah, ok.
Bon, bah d'accord.
Ok, très bien. Et ben on fait ça. on prend notre douche. On est dimanche matin, il est à peu près 8h30, quelque chose comme ça. Il y a personne dans les salles de naissance. Il y a personne au bloc, mais vraiment, le calme plat. Il y a tout le monde avec nous. Ouais, il y avait quand même pas mal de gens autour de nous qui se présentaient, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde était au courant qu'on s'était mariés, donc tout le monde nous souhaitait félicitations pour notre mariage.
C'est ça.
Et
en même temps, si vous descendez au bloc en tenue de mariage, évidemment.
Effectivement, que toute la nuit, toutes les infirmières qui passaient étaient là, genre, félicitations, parce qu'on était encore en tenue de lumière. Et nous demandait les photos du mariage, etc. Donc tout le monde était.
Ouais, tout le monde nous a dit on veut voir vos photos.
Ah ouais, c'était super, hein, c'était assez drôle.
Avec marqué urgence derrière.
C'était drôle, mais ça, on a des bons souvenirs.
Et ils vont préparer Manon en salle.
Moi, j'ai le souvenir que le gynéco nous dit est-ce que vous savez ce que c'est une pré-éclampsie? Et que pour optimiser, vous avez bien imagé le truc là. En disant, c'est comme si vous avez fait une greffe, je sais pas, de foie, par exemple.
Et que ça prenait
pas. Et que le corps le rejetait. Donc, en gros, là, votre corps rejette le bébé. D'accord. Je me souviens de ça, on m'a dit, ok, donc mon corps rejette mon enfant.
Ouais, c'était ça.
C'est censé se faire, ça. C'est pas logique.
Et puis, on avait commencé un peu à parler, toujours mon côté très cérébral, on avait commencé à parler de projet de naissance, on avait fait une préparation à la naissance avec une sage-femme juste exceptionnelle qui nous avait hyper bien accompagné sur la naissance, etc., etc. Ça s'est pas du tout passé comme c'était noté dans notre projet.
Ça ne se passe jamais comme c'est prévu.
Donc, dans le sas pour attendre au bloc, on essaie un peu de remettre en forme le truc. C'est une césarienne, mais on voudrait l'avoir un petit peu avec nous. Est-ce qu'on peut la poser sur Manon? Est-ce que moi, je peux partir faire les premiers soins? Est-ce que, plein de choses comme ça. Et du coup, d'un coup, on entend un petit bruit, comme ça. Et il nous la montre à toutes les deux. Et là, c'était la pédiatre, je crois, qui dit, bon, par contre, on va l'amener, on va faire le point, etc., etc. Manon me dit que je peux aller avec elle. Et là, ça commence un peu, gêne respiratoire, ça creusait vraiment beaucoup, elle était en assez grosse détresse respiratoire. Elle était en apgar à 2, je crois.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, 2.
Alba.
Ouais. Voilà, donc de suite, ils lui mettent le masque. Ils voulaient voir son taux de glucose, ils n'arrivaient pas à l'appliquer. Donc finalement, ils ont fait un cathéter en ombilical. Le cathéter ombilical, donc là on est dans une maternité niveau 2, il peut être posé dans un niveau 2 mais il doit être surveillé dans un niveau 3. Donc là, d'accord, de suite, Manon, toujours en salle de réveil, on m'explique que le SAMU va arriver et que Alba va être transportée à l'hôpital des enfants en néonat. en néonate. Là, encore une fois, le SAMU exceptionnel, c'est que ben, Alba était prête à partir et ils ont attendu que Manon puisse sortir. Donc, ils ont mis le brancard à côté de la couveuse où il y avait Alba pour que, faire un premier pot à pot, etc.
Mmh. Ah, je l'avais vu déjà avant.
Avant d'aller en salle de réveil.
Avant, ouais. Même temps, en salle de réveil, déjà, on avait fait un premier pot à pot. Donc, rapide. Enfin, dans ma tête, ça a été très rapide, en tout cas.
Oui, elle a quand même assez vite décompensé.
Ouais, et puis moi, je tremblais comme Jaja, donc...
Voilà.
Voilà, donc ça a été très rapide. Et effectivement, avant de moi monter après en chambre classique et que Alba parte à Purpan, effectivement, on a refait une pause où j'ai pu la revoir, où on m'a expliqué... Où la pédiatre a pris le temps de m'expliquer tout ce qui se passait. Parce que Jaja m'avait fait un résumé par texto, mais bon... Ouais. Elle a tenu à me dire de vive voix exactement ce qui se passait, répondre à mes questions si j'en avais, etc. Et puis après, ben, Alba est partie, quoi.
Donc là, Alba part dans un autre hôpital à 18 km de là.
Ouais. Et puis 18 km à Toulouse.
Ouais.
C'est pas 18 km en pleine campagne, quoi.
Ouais, c'est voilà. Ça. Donc elle part et on m'explique que voilà, là il est 14h. Que le temps qu'il l'installe, etc., qu'il fasse les premiers soins, etc., etc., que je peux y aller à partir de 16h30, 17h.
Mmh.
Ok, donc je reste, je rentre chez moi, me doucher, me doucher, chercher des vêtements, parce que là, clairement, tu te dis ben, que t'es pas prête de rentrer chez toi.
Non.
Donc, chercher des vêtements pour Manon. Nos témoins étaient toujours là à la maison. Donc, ben, je prends juste le temps de prendre une coupe de champagne avec eux, etc. Ensuite, ben, c'est ta sœur qui, avant de rentrer chez elle,
vient me voir. Ouais.
Donc, elle passe voir Manon. Et moi, je pars en réanimation néonatale voir Alba. Où on me met dans une pièce, on me dit le médecin va arriver. Ok. Et le médecin est arrivé 1h30 après.
Ah oui, d'accord.
Alors là, comment te dire que tu...
T'as le temps de te faire tous les films du monde, hein.
Exactement, tous les films du monde. D'un autre côté, t'as quelqu'un à l'autre bout de ton téléphone qui est là, genre, tu l'as vu ? Pas encore ? Mais pourquoi ? Mais
qu'est-ce qui se passe ?
Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que toi, tu n'en sais rien non plus. Et en gros, le médecin est venu me voir, il m'a dit que pendant le transport, elle avait quand même pas mal décompensé et qu'il l'avait intubée ventilée.
Ah, et quand même.
Intubée ventilée parce qu'elle se fatiguait beaucoup trop à chercher sa respiration avec le masque. Ils m'ont dit que les prochaines 24 heures allaient être assez décisives. Et... Mais qu'à part ça, ça allait.
Mais sinon, elle va bien.
Bah, voilà, c'est ça, qu'à part ça, ça allait. Voilà, c'était quand même plutôt voilà. Positif.
Elle respire pas toute seule. Les premières 24 heures sont décisives, mais elle va bien. Okay. Ok, bon. Très bien. Pas de soucis. Donc, je vais la voir. Elle est, intubée, ventilée, elle dort. Voilà. Ils nous donnent le numéro de téléphone pour appeler. Quand on veut, etc., etc. Je reste un bon moment avec elle, mais d'un autre côté, je pense à Manon qui est toute seule dans sa chambre post-césarienne, quoi.
Ouais.
Je me dis, bon, ben, j'ai fait plein de photos, plein de vidéos, je repars. marche arrière.
Ça a été le début de tous les allers-retours que tu as fait.
Tous les allers-retours. Je repars voir Manon, pareil, ben, je lui montre des photos, je lui explique, etc., etc. On appelle, machin. Ben, elle a même pas 24 heures, quoi. C'est,
ouais.
Le lendemain matin, je me lève. Le premier réflexe à chaque fois qu'on se réveillait, c'était d'appeler pour savoir comment ça allait. Et moi, j'y vais le matin et Manon me dit, bon, ben, je vais demander à notre gynéco si j'ai le droit d'y aller, d'aller voir Alba. Mmh. Le gynéco, il lui dit, oui, mais attention quand même, quoi. À 24 heures d'une césarienne,
Ah, c'est clair. Je sais même pas comment tu as eu le courage. Enfin, moi, j'aurais pas bougé à 24 heures d'une césarienne. Ça aurait été trop dur.
Alors, pas évident. Mais je pense que l'envie et le besoin de voir Alba fait que j'avais pas mal.
Ouais.
Le retour fut plus compliqué, par exemple. L'aller, ça a été. Parce qu'on m'a dit, bah, vous allez avoir du mal à marcher. Alors, certes, j'étais, je sais pas, mamie 80 ans qui avait du mal à avancer.
Ouais.
Mais j'avançais. T'as mis le temps dessus, mais le retour,
chaud. C'est que la réanimation néonatale, elle est loin.
Ouais, c'est
par rapport à l'entrée de l'hôpital des enfants, c'est-à-dire qu'il y a un grand couloir, mais il doit faire peut-être 500 mètres ce couloir.
Ouais, c'est la même à Bordeaux.
C'est vrai, mais il m'a paru interminable. Donc, c'est clair.
Puis bien évidemment, t'as l'hôpital des enfants, tu demandes si tu peux emprunter un fauteuil roulant, ben, il n'y en a pas.
Ben, il y en a pour enfants.
Il y en a pour enfants, mais il n'y en a pas.
Ouais.
Donc, elle se tenait au bar et tout. On passe un très long moment avec Alba.
Ouais.
Très, très long. Elle a beau être intubée, ventilée.
Non, il l'avait désintubée.
Il l'avait désintubée quelques temps avant parce qu'elle respirait.
Ça allait mieux, ouais.
Ça allait mieux. Donc, elle fait un pot à pot avec Manon. On re-rentre à la clinique.
Péniblement, ouais.
Et à peine arrivé à la clinique, le petit appel, Réa néonate. Bon, on décroche.
Petit coup de panique.
Oui, bonjour, maman d'Alba, parce que bien évidemment, tu n'as plus de prénom dans ce genre de milieu. Tu es la maman d'eux.
Ouais.
Je vous appelle pour avoir votre autorisation. On voudrait transférer Alba dans un autre hôpital parce qu'il y a des triplés qui viennent de naître et qui ont besoin de la place d'Alba. Ok. Et donc, en gros, elle nous explique que ben, là, ils pourraient prendre les trois. Et si on accepte que Alba bouge,
Les trois restent ensemble.
Et si on veut pas que Alba bouge, il y en aurait deux dans cet hôpital et un là où Alba est censée aller.
Mmh.
Ben toi, ça fait même pas 48 heures que t'es maman. T'imagines même pas être séparée de ton enfant. Donc tu te dis si tu sépares.
En plus la fratrie, voilà.
Et donc au téléphone, je dis ben oui, pas de soucis.
Si Alba va bien,
si elle va bien, allez transférer quoi. Là, c'est toujours du niveau 3. C'est toujours, il y a aucun problème. Mais si elle va bien. Allons-y. Donc, on repart.
Tu repars, moi, je reste.
Je repars à l'hôpital des enfants. Donc, je refais mes 18 km dans l'autre sens pour faire le transfert avec le SAMU dans cette nouvelle clinique qui, de premier abord, ne me plaît pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Je rentre à la chambre, je regarde, je fais à Manon, je dis hors de question. Et elle restera pas là, c'est pas possible. Tout simplement parce qu'en fait dans le dossier d'Alba il y a le numéro de téléphone de Manon. Il était 23h hein, donc on était en service de nuit. Je vais pour donner mes coordonnées parce que ben entre guillemets je suis sa deuxième maman, elle qui vient d'avoir une césarienne et ça, elle est pas non plus au summum de sa forme, enfin voilà. Et en gros, j'explique que ben, s'il y a des informations ou quoi que ce soit, de donner mon numéro pour que ça soit moi qui les ai, en fait.
Mmh.
Et la personne me répond « Non, mais c'est bon, on a déjà le numéro de sa mère. »
Oh, punaise.
Ok, bon, j'ai pas envie de batailler. Honnêtement, ça fait 48 heures, je suis juste fatiguée, je bataille pas. J'ai fait « Ok ». Et dans la voiture, j'appelle Manon en larmes et je lui dis « Elle restera pas ici, c'est pas possible, c'est pas normal. C'est hors de question qu'elle reste ici. J'en suis quand même à appeler notre gynéco pour lui dire « En gros, faites quelque chose, quoi.
Ouais.
Il faut nous la ramener ici, c'est pas possible, machin. » Donc là, on est le lundi soir. Et du lundi au vendredi, tous les jours, 4 fois par jour, je fais les allers-retours parce que.
Et là, t'as combien de kilomètres?
Une vingtaine.
Ouais, c'est toujours, ouais, c'est même distance, mais sûrement un autre endroit.
Oui, ouais, c'est ça, c'est même distance, mal opposé. Et ben, je continue les allers-retours parce qu'ils n'ont pas de place pour rapatrier Manon.
Mm.
Donc Alba est toute seule en service et Manon est toute seule dans un autre service pendant 4 longues journées.
Ouais, c'est clair.
Et ensuite, une fois qu'on a réussi à être transféré, etc., il faut savoir que du coup, Alba avait été désintubée. En réanéonate, ils nous ont dit que ça allait très bien, que ça allait peut-être durer 15 jours, mais pas plus.
Mmh.
Et elle a de nouveau décompensé pendant le transport. Et arrivée dans le nouveau service, ben ça repart, lunettes à oxygène 24 heures sur 24, elle a fait une jaunisse, sonde nasogastrique parce qu'elle se nourrit pas toute seule, enfin voilà. Et en gros, on nous explique que donc on est le 15 décembre, donc il y a un an pile, voilà, il y a un an pile, on nous dit qu'on va passer les fêtes ici.
Qu'on allait au moins passer Noël ici et sûrement le jour de l'an aussi.
Et sûrement le jour de l'an aussi.
voilà, qu'il fallait, fallait qu'on, voilà, qu'on soit lucide par rapport à ça et
voilà, qu'on n'allait pas sortir comme ça. Et après, une fois qu'on a été toutes les trois réunies, Alba a été dans notre chambre. Elle a été transférée dans notre chambre parce que ça allait bien. Elle avait plus besoin des lunettes, etc., etc. Et puis du coup, ben, le plus drôle dans tout ça, c'est que ben, elle avait pas besoin de tenue parce que ben, elle était dans un, elle était dans une couveuse, dans un berceau chauffant, donc pas besoin. Et quand ils nous ont dit qu'il y avait plus de berceau chauffant, enfin qu'elle en avait plus besoin, ben on n'avait pas de vêtements.
Ah oui, ben oui, c'est toujours comme ça.
Ben on n'avait pas de vêtements. Et puis en fait, si
on avait du naissance, mais sauf que le naissance était déjà beaucoup trop grand. Donc il fallait qu'on aille acheter du.
Donc on est parti, acheter du préma, et puis ben le préma était trop grand aussi.
Donc on a retroussé les manches.
Mais
voilà. Nageait dedans.
Mais oui, du coup Alba, elle est née, elle faisait 43 cm et 1,880 kg.
Ah ouais, elle était calée sur les miennes.
Ah ouais.
Ben, sauf que les miennes avaient 2 semaines de moins.
Ah oui.
Non, non, mais c'était des beaux bébés, les miennes.
Et du coup, après, ben, après, elle a fait une jaunisse, etc. Donc, elle est descendue à 1,2 kg.
Waouh. Ah oui, c'est beaucoup, ça.
Ouais.
Enfin,
ouais.
Elle a beaucoup perdu.
Ouais, ouais. Et puis, et ensuite, elle a passé le diplôme des 2 kilos. C'était le 26 décembre.
Donc, 15 jours... 15 jours après sa naissance.
Ouais.
Ouais, donc elle a fait un V, quoi. Elle a vraiment, elle a chuté fort et elle est remontée fort.
C'est ça.
Ok.
Et ça, c'est ça. Et ensuite, bah voilà.
Et ensuite, c'était parti.
Et après, c'était parti, ouais. 4 semaines d'hospitalisation intense.
Ils se sont plutôt bien passés parce que, bon, mis à part, je dirais, la jaunisse, on nous avait dit qu'il y avait de fortes chances qu'elle régresse, qu'elle progresse, que ça fluctue un peu comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'épisodes comme ça. Il n'y a qu'une fois où elle nous a dit, bon, voilà, bah, là. Il y a eu une petite absence de respiration, mais ça a été qu'une seule fois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu ce, cette épée de Damoclès de ça s'en va, ça revient, ça, ça repart. C'est, ça a toujours, ça a été relativement constante dans, les, dans la progression. Donc c'est vrai qu'on a, on n'avait pas cette inquiétude-là de dire, bon, ouais, qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà, à partir du moment où, à partir du moment où on lui a enlevé les lunettes pour respirer.
Ça allait, ouais.
Ça allait très bien.
Ça allait. Sa bête noire, c'était vraiment l'alimentation.
Ouais.
On a, on a vachement galéré par rapport à l'alimentation. Mais après, ça a été, elle avait pas de, elle a eu des examens ophtalmo, elle avait pas de soucis. Elle a eu des examens au niveau du cerveau, elle avait pas de soucis non plus. Vraiment, en soi, là, comme ça, aucune séquelle particulière. Mmh. On nous a juste parlé, de faire attention et ben au premier virus
au premier virus cela même
on nous a bien expliqué que la bronchiolite chez elle il fallait faire hyper attention. Bon, ça va, elle l'a eu à 11 mois donc ça va,
ouais.
Mais oui, c'est un monde à part entre ben, l'alimentation par la sonde nasogastrique, les seringues, les visites quotidiennes, parce que du coup on était on est sorti de la clinique le 6 janvier, mais on a continué en hospitalisation à domicile jusqu'au 20 janvier.
C'est ça, on a eu la chance de faire ça, de pas avoir à rester. Ouais, de pas avoir à rester à la clinique jusqu'au 20 janvier.
Ouais,
on a pu rentrer à la maison, retrouver un peu notre cocon à nous et puis d'être à la maison avec elle, de pouvoir être que nous. C'était aussi.
Ouais, commencer à prendre votre rythme.
Ouais, à prendre notre rythme, avoir ce. Enfin, d'avoir vu, avoir entre guillemets d'intrusion de différents professionnels qui venaient, qui repartaient, que ce soit pour elle ou pour moi. Et là, on était juste chez nous, tranquille.
Ouais, c'est ça, puis être chez nous, en fait.
Et puis voilà, on avait une visite par jour d'une infirmière puéricultrice pour faire le bilan d'Alba, voir quotidiennement comment ça allait. Et puis ça allait très bien.
Ouais. Ça. Et puis, on a eu du coup l'occasion le 6 janvier de découvrir notre déco de mariage.
Ouais.
Et oui, du coup, en rentrant
parce
chez vous.
Parce que nos invités, en fait, nous ont tout laissé, nous ont tout laissé en place avec bah, encore le bar à bonbons, etc., etc. Donc vraiment, on a eu l'impression de revivre notre mariage quand on est rentré.
Ah ouais, ouais. Et du coup, parce que cette petite coquine, elle est arrivée avant votre rendez-vous chez le notaire, donc du 14, donc elle est née avant la RCP.
Exactement.
Donc je suppose que pas de RCP.
Donc pas de RCP parce que ben, Manon était hospitalisée, Alba aussi, et en fait notre notaire est sur Albi, donc ça faisait un peu loin. D'accord. Donc notre notaire nous dit il y a aucun problème, on peut attendre que Alba rentre, soit bien, etc., etc. Ensuite on a eu, ben, surtout qu'en fait la RCP elle nous avait envoyé une première ébauche du document. Et le document était pour l'enfant à naître.
Oui, voilà, c'est ça.
Sauf que ben là, l'enfant est né. Donc, on a fait, on a modifié ça au mois de février parce qu'entre-temps, notre notaire a eu le Covid, etc. Enfin bref, voilà. Mmh. Et en fait, donc, en théorie, je dis bien en théorie, tu as juste à envoyer donc, ton acte notarié, tes deux actes de naissance
au
procureur.
Au procureur, oui.
Avec la facture de la clinique, comme quoi tu l'as bien fait à l'étranger.
Voilà, pour une preuve de la PMA à l'étranger, et c'est réglé. Mm-hmm. Sauf que on a eu des échos, comme quoi sur Toulouse, c'était compliqué, comme quoi le procureur de Toulouse mettait un peu des bâtons dans les roues, et était un peu resté dans le concept adoption. Et du coup, ben, après les quasiment 2 mois qu'on venait de passer, on n'a pas eu envie de se prendre la tête comme ça, donc on a décidé de prendre une avocate pour pour qu'elle fasse la demande de reconnaissance maternelle en notre nom, qu'on se dégage un peu de cette charge administrative là. Et au final, elle a déposé le dossier fin mars. On a eu la réponse le 7 juin.
Ah oui, quand même. Sur une RCP.
Ouais.
D'accord. Ouais, donc ça a pris presque le même temps qu'une adoption.
Exactement. Voilà, ça a pris le même temps qu'une adoption. Il n'y a pas eu de demande de pièces complémentaires ni quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, ce que j'ai appris en appelant le greffe de Toulouse plusieurs fois, c'est qu'une fois que le procureur a donné sa décision, il l'envoie dans les différentes mairies comme quoi il accepte pour faire le changement d'acte de naissance, etc., etc. Sauf que, en fait, c'est-à-dire que c'est pas un papier dans une enveloppe, c'est qu'il attend qu'il y en ait plusieurs pour pouvoir envoyer son courrier.
D'accord.
Donc, en fait, en gros, quand j'ai appelé au mois de mai, elle m'a dit que sûrement mon papier était dans l'enveloppe actuelle et que ça allait partir une fois qu'il y aurait plusieurs
documents.
Parce qu'en fait, sur le papier que j'ai reçu, la décision, elle date de fin avril. Mais je l'ai reçu le 7 juin. Et la mairie l'a reçu le 7 juin. Donc voilà.
Ok. Eh ben, Alba, ça, c'est un petit bébé warrior. Hein.
Un petit peu, ouais.
Ouais, c'est ça. Un petit parcours du combattant, quand même. Hein. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir raconté votre parcours, parce que clairement, je savais qu'il avait été relativement compliqué et je savais que la grossesse avait été complexe aussi. Et c'est pas parce qu'on a mené un parcours PMA qu'on est relevé, on va dire, de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur une grossesse, et particulièrement de la prématurité. Hein, on est tous logés à la même enseigne. Donc je pensais que c'était important qu'on puisse en parler aussi dans un épisode du podcast, pour sensibiliser et pour que nos auditeurs puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'est qu'un parcours avec une prématurité au bout, et surtout ne pas forcément se sentir seul quand ils en arrivent là.
C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, puis c'est surtout au moment où on comprend que ça va nous tomber sur la tête, sans prévenir, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive en fait ? Qu'est-ce qu'on a fait après avoir galéré tout ce temps ? Pourquoi ça en plus ? Ouais,
c'est ça.
C'est là où on était quand même assez contents d'avoir... notamment par les réseaux sociaux, etc., tu as pu discuter avec des personnes qui avaient vécu un peu le même parcours.
Ben, oui, du coup, j'ai beaucoup discuté avec les mamans d'Eliott, d'Aaron en devenir,
oui,
qui ont eu leur petit Eliott prématurément également. Encore une fois, j'ai beaucoup discuté avec Demande à tes mères,
avec Steph, ouais.
Qui, pour le coup, pareil, la prématurité, elle connaissait aussi. C'est vrai que c'était les deux personnes qui ont été au courant de la naissance d'Alba. Parce que ben, sur les réseaux, on a attendu. En fait, je voulais attendre avant de l'annoncer qu'on soit toutes les trois réunies. Et il s'est passé plus d'une semaine. Mais oui, ce sont les deux personnes qui étaient au courant parce que quand on nous a expliqué ce qui allait se passer, pendant que j'étais dans le sas avant de rentrer pour la césarienne, j'étais sur mon téléphone en train de leur faire « Mais comment je vais faire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi cette histoire ?»
C'est ça.
Mais voilà, c'est là aussi la magie des réseaux où tu peux raconter ton expérience et aussi avoir celle des autres et demander des conseils et tout. C'est un peu... c'est top.
Ouais, c'est ça. C'est hyper important d'avoir des personnes ressources dans ces moments-là qui vont... parce que souvent, les soignants, ils t'expliquent pas ou peu ou pas forcément bien, en tout cas pas dans les termes que toi, tu comprends, ou alors ils sont dans leur truc et donc ils emploient les termes médicaux, mais ils oublient de te dire... mais comment votre vie, elle va se transformer, en fait.
Et ça, on était relativement accompagnés dans la clinique, c'est que le pédiatre parlait effectivement comme ça, où on ne comprenait pas grand-chose. Et de suite, on avait les infirmières derrière qui nous disaient, alors attendez, je vais vous réexpliquer concrètement, je vais vulgariser ce qu'il a dit. Et du coup, ça, qu'on avait cette chance-là, c'est dans quelques-unes, pas toutes, mais en tout cas, qui venaient nous voir, qui régulièrement venaient voir comment nous, on allait, venaient discuter avec nous un peu pour voir comment ça allait, comment... on vivait, comment on appréhendait les choses. Je sais qu'on a eu la... toi, tu les as pas vues, je crois. Moi, j'ai eu la visite d'une psychologue pour voir effectivement comment moi, ça allait. Et ça fait du bien, d'ailleurs. Et,
la cellule psychologique, on a eu ça. Et après, honnêtement, c'est des services où ils sont surchargés. Ils ont beaucoup de travail, beaucoup de bébés qui ont besoin. Ils arrivaient quand même à trouver le temps.
Ouais, c'est ça.
Je me souviens, Ophélie, elle est restée peut-être plus d'une heure avec nous, quoi.
Mais tout ça, je pense à Ophélie et à Magali.
Ouais.
je sais que quand elle venait, on était partis pour discuter de... Et des fois, de tout et de rien, mais juste de prendre le temps,
Parce que du coup...
D'avoir ce côté un petit peu en dehors de la clinique.
Ouais, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais on est en 2021, toujours en période de crise sanitaire. Et aucune visite n'est autorisée.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous étiez que toutes les deux.
On était toutes les deux entre quatre murs, quoi. Alors, on avait les autorisations de sortie. On pouvait leur laisser Alba quand elles n'avaient pas trop de... Ils en avaient toujours, mais...
Quand il n'y avait pas de bébé en service.
On pouvait leur laisser un petit peu Alba pour ne serait-ce que d'aller se faire un resto ou d'en tourner vite fait chez nous. Moi, je mourais d'envie d'aller revoir mon chat. C'est complètement con, mais...
Oui.
Genre, j'ai vu Oana, j'ai pleuré, quoi, là.
J'avais
besoin de retourner à la maison, juste de sortir un petit peu de l'hyper
l'hypermédicalisation.
De l'hypermédicalisation, de juste souffler un coup, quoi.
De pas entendre le bruit du scope, déranger toutes les 5 minutes.
Là, Alba a eu un an, et c'est vrai qu'on se disait, il y a un an, on entendait les bip, et il y a tout qui est encore là, en fait. Il y a tous les bips possibles et inimaginables qui sont qui sont encore en tête, en fait.
Ah, je pense que ça marque, en fait. Je pense qu'on sera marqué.
C'est sûr. C'est un épisode de vie qui est... alors, je pense, pour certains, qui peut arriver de façon relativement dramatique. Vous avez eu l'air de le prendre de façon plus... avec plus de recul, plus de hauteur. Et puis surtout, Alba, elle est bien, malgré les petites décompensations qu'elle a eues au départ. Au final, la suite, c'est bien profilé. Voilà, elle était à 34 semaines, donc c'est pas un bébé qui arrive à 25 dont le pronostic vital est très engagé. Donc c'est vrai que quelque part, heureusement, j'imagine que quelqu'un qui vit de l'extrême prématurité, ça devient vraiment traumatique. J'imagine bien aussi que pour vous, c'est resté gravé parce que c'était pas anticipé, pas préparé.
Pas du tout. Mais oui, non, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là. Entre guillemets, dans la malchance de la prématurité, on a quand même eu la chance que ça allait, qu'elle va aller relativement bien, comme tu disais,
et qu'elle va toujours aussi bien.
Et que ça va toujours aussi bien que maintenant.
On sait que d'autres
vont très bien.
On sait beaucoup que d'autres n'ont pas cette chance.
On sait que, malheureusement, c'est pas le cas de tous. Qu'Alba était en service, même avant qu'on la récupère en chambre, on voyait d'autres bébés qui étaient nés prématurément, parfois au même stade qu'Alba d'ailleurs, et pour lesquels ça allait pas du tout, quoi. J'en ai souvenir en tête. Un qui plusieurs fois a dû être intubé parce que ça allait pas, alors qu'ils étaient, je crois qu'il était né plus ou moins en même temps qu'Alba.
Il était à 34 ou 36, un truc
et
comme ça.
Mais ça allait pas. On mesurait aussi cette chance en disant, mais en fait, par rapport à d'autres parents qui vivaient du coup la même chose, on était tous ensemble là dans la néonate et nous on avait cette chance qu'Alba allait bien, quoi.
Oui, c'est
Du fait qu'elle était petite, qu'elle était alimentée par sonde nasogastrique, elle allait bien. Donc c'est vrai que Ça aide à accepter. On relativisait aussi les choses en disant, ben, en fait, ça va, quoi. On y a, en somme, il y a toujours pire que nous, quoi, mais.
Ouais, bien sûr, ça. Mais ça n'enlève rien, le ressenti. Voilà.
Mais c'est vrai que ça nous permettait de, aussi quand même de prendre, comme tu disais, un peu de hauteur et de voir les choses un peu différemment et de profiter des petits et des moments qu'elle est bien, profiter de ce petit bout qui grandissait et de créer du lien avec elle. Quoi.
Mais après, voilà, entre la ponction, la grossesse et l'accouchement, aucun doute sur qui portera le deuxième enfant.
Je re-signe pas de suite.
Ça m'étonne, c'est étonnant.
Une fois, c'était pas mal. Deux fois, ce serait peut-être un peu trop.
Non, mais voilà, on en rigole aujourd'hui. Et c'est vrai que tout le moment de l'hospitalisation d'Alba, j'ai regardé Manon et je faisais « on en rigolera un jour ». Un jour, on en rigolera de
tout ça. Quand même, on a de l'humeur, on essaie quand même de...
Oui.
Oui.
On s'est bien marié à l'hôpital.
Ouais.
Pour la petite info, là, à Noël, nous avons ramené les ballons, la déco de Noël à l'hôpital, dans notre chambre et tout. Enfin, au jour de l'an, pareil. Mm. Histoire d'habiller un peu ces quatre murs blancs qui font pas rêver, faut se le dire quand même. Et voilà, on avait besoin de ramener un petit peu de vie extérieure. À défaut d'avoir nos proches qui pouvaient venir nous voir, on avait au moins, on essayait de se créer notre petit cocon à nous, quoi.
Non, mais vous avez bien fait, parce que c'est important, exactement. C'est important, sinon, surtout... sans avoir de visite extérieure, ça, on devient fou, quoi.
Le truc tout bête, quand on avait nos coussins de la maison, notre plaid.
Nos plaids. Et je me dis, ouais, de la déco.
On avait fait un petit sapin.
On avait fait un petit sapin. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça ramenait un petit peu de normalité dans un contexte médical, quoi.
Ouais, bien sûr. On n'envisage pas et on peut pas anticiper le fait. Et puis, on n'a pas envie de ça pour nos enfants qui commencent leur vie dans un hôpital entre quatre murs. C'est normal, à un moment donné. C'est un peu de l'instinct de survie que de se préserver, de créer un cocon pour l'accueillir, parce que finalement, c'est ce qu'on fait chez soi.
Mmh, complètement.
En tout cas, je vous remercie beaucoup, Joy et Manon, de bien avoir voulu partager votre histoire. Et clairement, quelle aventure. Je pense que Alba, quand elle connaîtra et qu'elle sera en âge de comprendre votre vécu et surtout de se rendre compte que c'est pas un vécu normal, elle saura vous en être reconnaissante.
Ouais,
on espère. Mais et merci à toi aussi pour l'invitation. Ça a été... un exercice pas facile, mais ça a été un plaisir de partager notre histoire.
Oui, je me doute que se replonger dans tous ces souvenirs pile un an après, donc en fait, quelque part, l'esprit conserve la mémoire des dates. C'est pas évident.
C'est ça, mais ça a été.
merci beaucoup à vous, et puis je vous dis à très bientôt.
Avec plaisir, merci à toi.
À bientôt.
Je dois encore vous avouer quelque chose. Je me suis laissée surprendre. J'ai toujours eu peur de manquer de contenu, alors j'ai été insatiable dans ma façon de gérer mes enregistrements. J'étais en stress dès que j'avais moins de 10 épisodes en boîte. Toujours dans cette espèce de course effrénée, j'ai sorti plus de 80 épisodes la saison dernière, au point que je me suis peut-être un peu perdue dans les chiffres et les statistiques. A priori, je n'avais pas encore bien compris qu'après un burn-out, il faut lever le pied. Toujours avec mon histoire d'avance, j'ai fait parfois patienter plusieurs mois mes invités avant la sortie de leur épisode. Et je n'aimais pas ça. Alors, avant le début de la saison 4, pleine de bonnes intentions, je me suis fixé une nouvelle façon de travailler et de me préserver. J'allais ne plus enregistrer tant que j'avais de la matière. Oui, mais, parce qu'il y a un mais dans tout ça. Je ne l'ai pas vu arriver. Et c'est aujourd'hui. Je n'ai officiellement plus un seul enregistrement dans mon ordinateur, pas même celui de la semaine prochaine. C'est tout de même fou de penser que j'en ai eu suffisamment pour tenir jusqu'au mois de janvier, non ? Mais, alors on fait quoi maintenant ? J'ai presque envie de dire, eh ben prions ! Non. Non, parce que vraiment, seul le travail paye. Pas d'inquiétude, enfin ça c'est plus pour moi que je le dis. J'ai programmé des enregistrements dès lundi, mais alors je peux vous dire que le montage va être plus que short. Je vous avais promis que via cette rubrique, vous connaîtrez les dessous du podcast. Je crois qu'on y est bien là. Enfin, si vous voulez toujours me soutenir malgré mon manque d'organisation flagrant, le meilleur moyen est de donner au podcast plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien.
Vous pouvez aussi me faire parvenir vos propositions de témoignages, ça devrait aider ma problématique d'enregistrement du moment. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Je vous remercie encore pour tout votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Inside my chest, so I grab what I can cling to, and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I want to feel a little less alone, less alone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.